Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30, votre journal vous est présenté par Christophe Olivier Ninos.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans l'actualité ce matin, le nombre d'étudiants augmente à Liège, le besoin de nouvelles résidences se fait sentir, l'université a décidé de doubler son nombre de logements sur le campus du Sartillement. La saison des chapis reprend, mais cette année, les étudiants ne feront pas la fête dans leur salle de guindaille habituelle. Lola Carvajal fait le point après le premier chapis. 1 million d'euros pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie, un montant débloqué par la région Wallonne visant à apporter une aide humanitaire aux rescapés. Un relifting pour la gare Liège-Saint-Lambert annoncé, un projet qui ne fait pas l'unanimité, Simon nous décrit la situation en fin de journal. Deux fois plus de logements sur le campus du Sartillement, c'est le nouveau projet de construction de l'Université de Liège. Le but, pallier à l'augmentation du nombre d'étudiants sur le site. En quoi consiste ce projet, Thomas Schaeferzik?
Alors, ce projet unit le consortium ETIAS, Moury et Quares à l'Université de Liège. L'objectif, passer de 410 à 810 logements dédiés aux étudiants et universitaires. Les chambres actuellement occupées seront rénovées. Un investissement important et responsable de l'environnement, Anne Girin, administrateur de l'Université de Liège.
Donc il s'agit ici d'un projet de plus de 60 millions d'euros. Donc c'est effectivement un investissement majeur sur le campus du Sartillement. D'une part, il n'y aura aucun abattage d'arbres. Donc le projet dans son intégralité se situe dans des zones où il n'y a aucun arbre à abattre. Et par ailleurs, l'ensemble du bâtiment sera qualifié, aura le label de BREEAM Very Good, qui est effectivement un label qui, en matière de développement durable, est vraiment très très haut.
Il n'y a pas que les aspects financiers et écologiques qui comptent. Anne Girin aborde aussi la question de la mobilité.
Nous ne nous attendons pas à des problèmes importants en matière de mobilité liés à ces travaux qui ne vont pas se trouver ni sur le chemin des bus, ni sur les chemins habituels d'entrée et de sortie du campus.
Un projet qui devrait donc se concrétiser à l'horizon 2026-2027.
La saison des chapis recommence pendant un mois. Les étudiants fêtards se donnent tous rendez-vous à Droix, mais cette année, ce n'est pas dans la salle de guindaille habituelle, Lola Carvajal.
Chaque comité de baptême possède sa propre soirée, aussi appelée Saint. Historiquement, elle se déroulait sous un chapiteau, d'où le nom Chapi. La salle de guindaille est actuellement en travaux. Depuis 2016, elle accueillait ses festivités. L'AGEL a donc mis en place une alternative provisoire. C'est ce que nous explique Samir Zomed, vice-président de l'AGEL.
Pour le chapiteau de cette saison, pour la saison des saints, elle va se passer comme les années précédentes, sauf que c'est du coup dans un chapiteau qui est juste en face des travaux de la nouvelle salle.
Malgré la salle provisoire, l'AGEL encadre et applique toujours ses règles de sécurité, comme le retour safe grâce à des navettes. Les directives ne changent pas, si ce n'est la capacité de la salle.
Il n'y a pas de gros changements, sauf pour la limitation du nombre de personnes qui est limitée à 2000 maximum.
2000, c'est le nombre de personnes qu'a accueilli le comité de baptême ingénieur civil lundi soir. Ce sont les premiers de la saison. Ils se disent contents du déroulement de la soirée. Valentin Van Raas, président du CB1G.
Pour que ça se passe bien, nous, ce qu'on met en place, au niveau du retour des chapis, on prévoit des navettes tech qui ramènent tous les gens dans le centre-ville, ainsi qu'une équipe du comité qui est placée le long de l'allée du chapis afin de veiller à ce que personne ne rentre à pied, seul ou en bus. Et au niveau de l'organisation du chapis, en général, on dit qu'on avait assez bien préparé en amont et que sur place, on prend une agence de sécurité, tout se déroule sans accroc.
La saison se terminera par la classique Saint-Auré du 20 au 22 mars, l'occasion pour les étudiants de décompresser avant le blocus et les examens, peu importe l'endroit.
1 million d'euros, c'est le budget libéré par la région Wallonne, un montant destiné à aider les victimes des tremblements de terre en Syrie et en Turquie. Qu'en est-il, Lola ?
Le gouvernement wallon avait libéré 250 000 euros la semaine passée. Face à la gravité de la situation, 750 000 supplémentaires ont été dégagés. Cette somme, elle sera reversée au consortium 12-12, constitué lui-même de 7 grandes organisations humanitaires.
Et quelle est la situation sur place ?
On le rappelle, le 6 février dernier, un séisme a touché la Turquie et la Syrie. Plusieurs dizaines de milliers de morts sont à déplorer. Le 20 février, une nouvelle secousse survient. Au total, près de 45 000 morts, dont 5 000 environ en Syrie. La mauvaise gestion de l'immobilier, par l'administration turque fait vivement réagir. Les bâtiments construits sans permis, l'absence de respect des normes urbanistiques ont conduit à cette situation en réponse à ces critiques. Erdogan, le président turc, a promis de reconstruire 200 000 logements.
Qu'en est-il de l'aide humanitaire?
En Belgique, le consortium 12-12 a réussi à rassembler plus de 6 millions d'euros depuis le début de la catastrophe. Une aide précieuse aux victimes. Parmi les membres de l'association, on retrouve la Croix-Rouge, Oxfam, UNICEF ou encore Médecins sans frontières. Les fonds levés apporteront des abris, des vêtements, de la nourriture et de l'eau aux victimes. Des écoles temporaires seront construites pour permettre aux enfants de poursuivre leur éducation. Côté international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé une aide de 100 millions de dollars. Plus de 11 000 secouristes étrangers se sont également mobilisés pour tenter de sauver le plus de personnes possible.
Et pour les familles installées en Belgique?
Le gouvernement wallon a annoncé vouloir apporter un soutien psychologique aux familles. Il mobilise tous les services de santé mentale disponibles. Il compte apporter une aide à tous ceux qui en ont besoin. Il serait 300 000 à vivre dans le pays, selon les derniers recensements. D'après le consortium 12-12, la reconstruction du pays sera un marathon plutôt qu'un sprint. Il faudra donc plusieurs années pour relever le pays de cette catastrophe.
Il est 9h36, vous écoutez toujours 48 FM.
La gare Saint-Lambert fait peau neuve, Simon les enfants.
Toiture végétale, place de vélo, accès PMR et guidage podotactile pour les malvoyants. L'ancienne gare du Palais s'octroie un relifting. La station, auparavant souterraine, s'élèvera au rez-de-chaussée et sera équipée d'escaliers, escalators et ascenseurs. La SNCB assure que la gare sera plus confortable et sécurisante pour les utilisateurs, avec notamment des panneaux d'information et une sonorisation. Pour rappel, près de 15 000 voyageurs fréquentent la gare Saint-Lambert chaque semaine. Ce projet est le deuxième proposé par la SNCB, le premier n'ayant pas été accepté par le Collège communal de Liège. Après avoir reçu les remarques de l'échevine de l'urbanisme, la nouvelle version a été acceptée en septembre dernier. Ces propositions n'ont cependant pas été accueillies unanimement par les autorités. La nouvelle gare Saint-Lambert ne serait pas à la hauteur de la situation, comme nous l'explique François Schreuer, conseiller communal.
Il y a d'abord effectivement un problème au niveau du stationnement vélo, donc il y a moins de 100 places de stationnement vélo, c'est beaucoup trop peu. Il y a un problème d'intermodalité avec le transport public, on a visiblement pas beaucoup pris en compte la question de la relation avec les arrêts de bus et l'arrêt de tram qui sera pas loin de là. Puis bien sûr il y a la question de l'accueil, simplement l'accueil du public, c'est-à-dire que vous avez... potentiellement des milliers de personnes qui vont passer là. La gare ici réduit vraiment au strict minimum les espaces d'accueil du public. Une gare, c'est un lieu qui doit être un minimum accueillant et ce n'est pas du tout le cas ici.
Les travaux devraient débuter dans les prochains mois. Ils dureront environ un an et demi, mais que les Liégeois se rassurent, ils ne devraient pas avoir de lourds impacts sur la circulation.
Simon, les enfants, fait le point sur l'actualité en bref. Le meurtre de policiers jugé comme une attaque à notre société, annonce le ministre de la Justice, Vincent Van Kickenborn.
C'est le contenu d'un arrêté royal déposé ce vendredi 17 février et approuvé par le Conseil des ministres. Cette décision fait suite à l'attaque au couteau à Skarbeg en novembre dernier. Pour rappel, elle a coûté la vie au policier Thomas Monjoie et blessé grièvement un de ses collègues. Cet arrêté permettra aux familles de policiers de bénéficier d'indemnisation plus rapidement, sans attendre la fin des procès. Cette règle s'applique déjà pour les survivants d'attaques terroristes.
Montage diffamant et insultes sur la toile, deux députés MR déposent plainte pour injures publiques.
L'ancienne ministre de l'Énergie et actuelle députée fédérale Marie-Christine Marguem a été victime d'un montage, je cite, injurieux et calomnieux par un internaute sous pseudonyme. La députée bruxelloise Aurélie Szewskalski subit quant à elle de nombreuses insultes selon son avocate. Ces plaintes visent à envoyer un signal contre les attaques sur les réseaux sociaux, notamment envers les personnalités publiques féminines.
Un bateau espion russe aurait pénétré les eaux territoriales belges en novembre dernier.
C'est l'annonce faite hier par le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborn. L'embarcation naviguait sans système d'identification, selon une dépêche belga. Ce navire aurait été déjà repéré aux Pays-Bas précédemment. Le ministre a déclaré « Nous ne connaissons pas les motivations précises de ce bateau russe, mais nous ne devons pas être naïfs non plus ». Fin de citation. Le Centre d'information maritime assure la surveillance sur la côte belge a lancé une enquête.
Kiev est fort, Kiev est fier, il tient debout et surtout est libre. Ce sont les mots de Joe Biden en visite hier à Varsovie.
Une visite symbolique qui fait écho au discours de Poutine de ce mardi. Le président américain, quant à lui, martèle, nous soutient à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera pas divisée et nous ne fatiguerons pas. Fin de citation. Le président russe, quant à lui, campe sur ses positions et annonce continuer méthodiquement l'offensive en Ukraine. Vladimir Poutine continue également d'accuser l'Occident d'être la raison des escalades. Un objectif de paix pour Kiev ne semble pas à l'ordre du jour pour ce conflit qui a débuté il y a un an cette semaine.
Merci Simon les enfants, on passe au sport. Thomas Schaffersick, le Real Madrid et Naples prennent l'avantage pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions.
Absolument, Christophe Olivier, mené 2-0 après 14 minutes de jeu, le Real marque 5 fois et remporte la victoire face à Liverpool à Anfield. Naples, quant à lui, s'impose 2-0 à l'extérieur contre l'Eintracht Francfort. Ce soir se déroulent les derniers matchs des huitièmes de finale. L'Inter accueille le FC Porto et Manchester City se déplace à Leipzig.
Et les Red Flames affrontent les champions d'Europe ce soir.
Un match de prestige contre l'Angleterre, les deux équipes partagent 6 points au classement de l'Arnold Clark Cup Women. En cas de victoire, les Belges décrochent leur deuxième tournoi.
Hier en cyclisme se déroulait la deuxième étape du Tour des Émirats Arabes Unis.
Soudal Quickstep et Remco Evenepoel décrochent le contre-la-montre par équipe. Remco se place deuxième dans le classement général, derrière l'Australien Luca Plapp. Le Belge Tim Merlier, vainqueur de la première étape, conserve son maillot vert.
Et un mot de tennis pour la fin de cette page sportive.
Alors David Goffin s'impose face au Slovaque Luka Klin au premier tour de l'ATP de Marseille. Il affrontera le vainqueur du duel entre Mikael Imer et Radu Albot.
Merci Thomas Schaffersick. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48FM.